happy birthday to John Hamilton. Democracy Now! Has job openings at democracynow.org. I'm Amy Goodman. Thanks so much for joining us. Stay safe.
Souvent des questions sur le pays où je suis né. J'ai pas fait l'université, mais je pourrais vous expliquer qu'on mange des frites à chaque repas comme dessert, un bon chocolat, 5 ou 6 bières pour digérer. On met du Jacques Brel pour danser. Après, on invente des histoires belges qu'on revend en France au marché noir. On se fait payer en dollars, on fait pas semblant de rigoler. On fête aussi le jour de l'an, seulement le 21 juillet. Tous les Wallons, tous les Flamands devant le roi vont s'amuser. Le reste du temps, c'est comme ailleurs. Le vrai spectacle est en coulisses. Il est pas beau le postérieur. Du valeureux mannequin pis. Au lieu de dire je ne peux pas, on préfère dire je ne sais pas. Serait-ce du second degré qu'on prenne qui peut ou qui sait. En Belgique on n'a plus une thune, mais on nous voit jusqu'à la lune. Grâce aux autoroutes éclairées, nous avons l'électricité. Il y a des riches qui ne prêtent qu'aux riches, des pauvres qui font des enfants pauvres. On fait aussi de très bonnes gaufres, c'est un pays civilisé. Les bâtiments de l'Art Nouveau rénovés en tour à bourreau. On ne protège que la façade, les eurocrates sont bien logés. Charmant petit côté rustique, bruxellisation touristique. Et à l'intérieur tout est maussade. Et c'est la Belgique en résumé. Ça sent le facho, y a les anciens, puis les nouveaux. Un petit parfum de liberté, et y a aussi monsieur le curé. Comment se prétendre de souche d'un terrain qui fut violé par l'Ostrogoth, le Ménapien, par l'Espagnol et l'Autrichien. L'Hollandais, le Jules César, Napoléon et ses brognards. Adolphe et quelques hommes en noir se sont départagés l'histoire. La pays qui est le sien, qu'à présent j'observe de loin. Sourire en coin et dos tourné, c'est trop facile de s'en moquer. Sourire en coin et dos tourné, et c'est trop facile de se moquer. Et du plat pays qui est le mien, et dont parfois je me sens loin.
Bonjour tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'est le lendemain de la veille avec Marc-André, comment vas-tu?
Je vais bien Nelson, et toi, comment vas-tu?
Je vais très bien, merci de demander Marc-André, c'est si gentil de ta part.
Et que c'est le fun d'écouter du beau petit reggae le matin, ça nous met dans le beat joyeux, happy joy joy.
C'est un excellent choix que tu as eu Marc-André avec cette chanson de Vander.
Ben merci, Vander et du beau monde. C'est nous autres, ça. C'est vous autres.
C'est tout le monde qui nous écoute, effectivement. Ceux qui ne nous écoutent pas, c'est pas du beau monde.
Exactement. One love. on donne de l'amour à tout le monde ce matin.
Donc, Vander, le nom de la chanson, pardon?
Oui, c'était La Belgique en résumé.
Un résumé de la Belgique en une chanson, plus ni moins.
Exactement.
C'est un beau projet.
Ben, Vander, c'est un Belge qui habite au Québec, qui a joué de la basse dans un groupe. Avant de dire avec qui il a joué, je sais déjà que tu sais la réponse. Là. Ah. Mais celle-là, je pense que tu sais pas. Okay. En Belgique, il joue dans quel groupe?
Hey boy, c'est-tu le nom de groupe qui commence, qui finit par verte
non,
et qui
non.
commence par N?
Non. Pas d'inside dans même.
OK.
Non, c'est les frères Brother.
Les frères Brother.
Ouais, les fameux frères Brother. Exactement. Mais non, c'est ça. Il est sur l'album de Dehors Novembre des Colocs.
Oui, OK.
Ami du défunt Dédé Fortin.
Oui.
Puis André, il s'appelle André aussi, le bassiste. André Dédé Vander.
C'est son nom de famille, en fait, là, c'est son nom d'artiste.
Ben, son nom d'artiste, c'est ça, son pseudonyme, c'est Vander. Vander, je ne sais pas comment on le prononce, parce que son vrai nom à lui, c'est André Vanderbeest.
Ah, voilà.
Mon wallon flamand et tout ça n'est pas à point, là, mais
pas grave.
C'est ça, c'est un Belge. C'est ça qu'on apprend dans la chanson, que c'est un Belge, puis comment que la Belgique allait. Moi, j'étais en Belgique, puis j'adore la Belgique. La bière est bonne.
Les frites. À tous les repas, en dessert.
Et le musée de la bande dessinée.
Oh, OK, ouais.
Parce que la Belgique, en bande dessinée...
Ils en ont fait un peu, hein? Ils ont fait 2-3 bandes dessinées dans les années...
Des petits auteurs.
Ouais, des petites séries BD qui ont un certain succès.
Exact.
Mais qu'après ça, c'était passé inaperçu.
Non, ça continue. Il ne faut pas... La Belgique, là, tu sais, pour les Français, c'est souvent le Terre-Neuve pour nous autres ou pour le reste du Canada.
Les newfies des Français.
Mais moi, je les trouve pas newfies. Ils me font plus rire que les Français bien souvent. Puis ils ont des choses très sympathiques, comme je viens de dire, la bière, les frites. Mais c'est les bandes dessinées. Et les bandes dessinées.
Ça se résume à ça.
Non, mais puis des groupes de musique aussi.
Ben oui.
Ouais. Fait que, ils ont tout ça. On salue tous les Belges qui nous écoutent.
Vive la Belgique. Vous avez une bonne équipe de foot.
Ah, ça, là, c'est toi qui...
Dans mon livre, à moi, meilleur que les Français.
Ah ouais?
Ben non, c'est pas vrai.
C'est quoi le nom de leur équipe? Ils en ont plusieurs, là. Mais...
L'équipe de Belgique. Ouais. L'équipe nationale de Belgique. Leur surnom, c'est les Red Devils, je crois, si je me trompe pas.
OK.
Ouais.
OK.
Ben, les démons rouges. Là, je suis en train de... Hey, tu mets un doute, sérieux? On the spot. Mais non, l'équipe de Belgique, c'est une bonne équipe de foot. Mais bref. On n'est pas ici pour parler de foot.
Non, mais c'est ça, je suis surpris, mais ça doit être dans ton sang, dans ton sang.
J'écoute le foot, je suis un fan de foot, mais on va pas parler de ça ici.
Hey, c'est parce qu'on va dire aux téléspectateurs, mais aux auditeurs d'émissions de radio.
Aux millions d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Exactement, j'entends la foule crier.
Selon les derniers sondages
BPM.
De la maison marketing léger.
Et léger. Ici dans le studio, il y a une affiche que j'aime beaucoup qui dit I miss my pre-internet brain.
OK. Je m'ennuie de mon cerveau avant Internet.
Et là, nous, ce qu'on fait ici, tu l'as déjà répété dans les premières émissions, c'est vraiment old school, c'est ma discothèque, mes cassettes, mes vinyles, mon MP3. Mes jouets, mes bébelles, mais il n'y a pas de laptop, il n'y a pas d'Internet, on n'est pas en train de regarder est-ce que c'est la bonne information, on Google en deux tonnes, non, on fait des hyperliens dans notre cerveau. Oui, dans notre cerveau.
On est capable de faire des liens nous-mêmes.
Oui. Mais des fois, c'est pas exact, c'est pas ça coche tout le temps.
Non.
Mais vous comprenez que c'est une émotion, que c'est l'idée à peu près de...
Spontanément
de qu'est-ce qui nous
vient. Notre cerveau est capable de processer des infos,
ouais.
Puis de faire des associations avec d'autres informations.
Exact.
Si tu n'es pas assez extraordinaire. Avant l'arrivée des ordinateurs, il y avait ça déjà.
Oui, on utilisait notre cerveau. Moi, j'avais le numéro de téléphone chez tes parents. Je ne le dirais pas en nombre. Je suis sûr que ça n'a même pas changé de
s'il
toute
vous
façon.
Plaît. Non, merci.
Mais tu sais, on savait les numéros de téléphone de nos amis par cœur.
Aujourd'hui,
je ne sais même pas celui de ma blonde.
Je sais même pas le mien.
Le tien, je ne sais même pas le tien.
Ah,
par cœur.
Si tu m'insultes, là, je suis vraiment.
Non, je sais. Mais je vois ton nom, je clique sur ton nom.
Incroyable, Marc-André.
Je sais. C'est une paresse intellectuelle inacceptable.
Mais non, effectivement, notre émission est faite comme ça, old school, avec des CD, sans laptop, sans Google, sans Wiki.
Sans playlist.
Juste avec nos petits post-it, puis le texte qui est écrit dans la paume de ma main avec un stylo rouge.
Mais vu que tu as les mains moites, puis tu transpires, puis tu es nerveux, c'est tout en train de se modger.
Là, en ce moment, il y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
C'est, depuis 30 secondes, tout est parti.
Fait que pour les prochaines 50 minutes, ça va être le dead air.
Je vais juste répéter ce que tu dis, puis en espérant que ça fasse du sens.
Hey, en parlant d'encre qui coule dans les mains, au mois d'octobre, c'est une chose que j'adore.
Ah, le lien, toi.
Le lien.
Un autre lien.
Ouais, un autre hyper lien. En
plus. Incroyable.
C'est, en anglais, ça s'appelle le Inktober.
OK.
Le octobre en encre. Ça, non, juste ça, c'est
ben
du
ouais,
bois.
Ben oui, le mois de l'encre.
Le mois de l'encre. Et qu'est-ce que c'est de le mois de l'encre? C'est pas... ça pourrait être aller se faire un tatou. Ça pourrait être écrire sur sa main et que ça disparaisse ou pas. Non, c'est plutôt qu'il y a une liste qui apparaît pour chaque journée du mois. Fait que, au mois d'octobre, ça, c'est tout le temps 31, à moins que je me trompe. Là.
Ben, habituellement, le mois d'octobre a 31 jours.
Ben, c'est ça, c'est ce que je disais.
Dans mon livre à moi.
Dans ton livre à toi. Il n'y a pas de bisextile ou des affaires normales. Il m'a dit bisexuel.
Non, non, non. Non, non. J'embarque pas là-dedans.
Non, OK. Fait que t'es un petit gars gêné réservé. Je te laisse, là, il rougit, mesdames et messieurs. Non, mais pour de vrai, c'est ça. Fait que, à chaque jour de la semaine, des 31 un jour du mois d'octobre, il y a une thématique. Là, je ne l'ai pas devant moi, la liste, puis c'est, vous pouvez la trouver sur tous les médias sociaux.
Ouais.
Et à chaque jour, les gens dessinent, admettons, je donne un exemple, aujourd'hui, ça serait pomme.
OK.
Fait qu'il faut que dans ton dessin que tu vas faire à l'encre, les old school vont le faire à l'encre de Chine, ce qui ne permet pas l'erreur. Moi, c'est ce que j'avais... Le gars qui m'avait initié à ce mouvement-là disait que c'est on utilise l'encre de Chine. L'encre de Chine, c'est que si tu te trompes, ben,
ça paraît
puis ça reste comme ça. Fait que tu fais un dessin par jour avec une thématique. Mais une thématique, c'est presque un objet, c'est une idée. Il faut que ça apparaisse dans le dessin. Fait que dans le fond, le dessin, il est libre.
Donc, c'est un mouvement qui est présent sur les médias sociaux.
Oui, oui.
Je présume Instagram.
Facebook, Instagram.
Où il y a beaucoup d'artistes visuels qui exhibent, qui font la promotion de leur propre projet.
Oui.
Puis, donc là, c'est Inktober. J'imagine qu'il y a un hashtag.
Sûrement.
Hashtag Inktober où est-ce que les gens se suivent comme ça, puis qu'à chaque jour. Donc là, par exemple, aujourd'hui. On est un jour d'octobre, on dit.
Oui, bien, on va regarder. Pendant que, plus tard dans l'émission, on va faire ce que j'ai dit qu'on ne faisait pas, mais on pourrait aller regarder le hashtag ou la liste, là, mais je veux dire, c'est des mots. Mais moi, j'en suis un artiste montréalais. Il y a plusieurs artistes que je suis, mais il s'appelle Johnny Crap.
Oui.
Qui fait du tatouage, qui fait du graffiti, qui fait des affiches pour des spectacles, des groupes. Et à chaque jour, il poste, il publie un dessin de qu'est-ce qu'il fait par rapport au mot de la journée, si tu veux.
Donc, il embarque
Il montre même pas juste le résultat final. Souvent, il se filme, il fait un petit, on va dire, un petit Instagram vidéo, un TikTok, on va dire. C'est pas un TikTok qu'il fait, là, mais c'est un petit 15 secondes. En accéléré, des fois, du dessin ou de l'ancrage qu'il fait. Parce qu'il y a des gens qui dessinent, admettons, à la mine ou à l'espèce de crayon bleu. C'est comme un crayon bleu que quand tu dessines, puis... t'as pas besoin d'effacer tes lignes, puis tu fais une photocopie. Ce bleu-là, qui est un bleu, on pourrait dire poudre un peu, c'est comme un crayon en bois de couleur, comme un Prismacolor. Dans la photocopieuse, la copie n'apparaît pas le bleu.
Le bleu disparaît.
Le bleu disparaît.
Donc, les traces de...
De ton sketch, de ton croquis disparaissent. Puis c'est juste les traits noirs que t'as fait au propre de ton dessin qui apparaît.
Intéressant.
Donc, c'est super intéressant à voir. Tu sais, des fois, tu te dis, ah, voyons, le cercle, pourquoi il fait comme... Ben, je parle des artistes en général, là, pas de celui que je viens de nommer. Mais... Tu sais, ils font deux, trois cercles différents, puis il y en a juste un qui vont ancrer, ce qu'on appelle ink it. Ancrer, fait que c'est ça, mais tu te dis, ah, mais le résultat final, tu sais, il place ses choses, puis à un moment donné, il décide que ça va être plus ça qu'un autre. Puis les résultats sont incroyables, puis vu que c'est le mois d'octobre, c'est souvent un petit peu le monde, ils sont comme dans une ambiance pré-Halloween, ou tu sais, c'est l'automne, fait que beaucoup de choses, horreur, automne.
Sombre.
Sombre un petit peu plus. Fait que c'est tout le temps
feuille morte.
Super plaisant.
Mais ouais, on va suivre ça sur les médias sociaux, le Inktober.
Yeah, yeah.
Hashtag, et puis notamment Johnny Crapp, qui est un artiste montréalais.
Jonathan Bergeron pour les intimes, je
crois. Ah, on a dévoilé, on l'a démasqué.
Puis, c'est une identité secrète de super-héros.
Johnny Crapp, lui, qui fait des dessins, beaucoup de style custom culture, là, de style motard, avec des squelettes sur des motocyclettes, très figuratif, là, très tatou, art visuel du monde du tatou, là, du tatouage. Là. Donc, oui, des bonnes suggestions, Marc-André. Là,
tout ce qu'on aime, tiki culture, des affaires hawaïennes. Il a fait des dessins pour Suicidal Tendencies.
Oh, OK.
Les T-shirts qu'on aime, tout ça. Et en parlant de Suicidal Tendencies, il y a une fille aussi qui avait dessiné, qui est en Buenos Aires, en Argentine, qui s'appelle, je pense que c'est Villian, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est une fille qui a fait les T-shirts aussi en la même série que notre artiste local. Et elle aussi, elle participe, elle fait beaucoup de dessins en noir et blanc. Fait que pour elle, c'est comme naturel. Elle dessine 24 sur 24.
Elle participe à Inktober.
Fait que c'est un autre que je suis, qui est un peu plus loin de nous, mais que ses dessins sont incroyables. Puis les détails qu'ils peuvent mettre. Il y a des gens qui font, tu sais, un croquis vite fait. Sur une napkin presque. Puis d'autres, c'est des dessins que tu voudrais accrocher dans ton salon.
Ah, ouais. Cool. Est-ce que tu sais qui est derrière ça, Inktober, qui a initié le projet?
Non. Moi, c'est un ami français qui m'en avait parlé, qu'on va sûrement inviter à un moment donné, qui m'en parlait. Puis j'avais aucune idée ce que c'était. Si on recule, il y a peut-être 5-6 ans. Et il m'avait fortement conseillé de le faire. Puis moi, je pense après 5-6 jours, ça l'arrête. Fait que je fais les 5-6 premiers jours, puis après ça, c'est comme de la procrastination, j'arrête. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vois, je suis en train de dessiner.
Ouais.
Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Je dessine du noir et blanc, mais c'est quand j'ai le temps. Puis j'aurais presque dû le faire finalement, parce que si tu regardes le nombre de résultats de dessin que j'ai, c'est à peu près le nombre de jours qu'on a.
Parce que pour les gens qui nous écoutent, il faut comprendre que Marc-André, notre humble serviteur, est un artiste en art visuel qui est très talentueux. Alors allez voir Marc-André Jutras sur le google.com. Ou sur Wikipédia, sa page Wikipédia aussi, qui est bien étoffée.
N'y est-ce pas? Je pense que pour derrière, il y a d'autres Marc-André, là, ça va être parti. Non, ça part pas. C'est bon, c'est sur pause pour une fois que ça, le système ne lâche pas. Mais merci de m'avoir lancé des fleurs. Non, mais ils peuvent aller sur Instagram, c'est le roi mage, mais en espagnol, El Rey Mage, ElReyMaj. Ils vont pouvoir voir des petits sketchs que je fais, des petits
On va aller voir barbeaux. Ça. On va aller voir ce que tu fais, mais avant ça, on va écouter de la musique, Marc-André. On écoute Sergent Garcia. Alors, let's go!
Sur le Mikey, Bogota c'est Bogota, et Paris c'est Paris. Combien m'en fit dans la partie? Sergent Garcia sur le Mikey, sur une bonne base de reggae, l'accordéon de la Colombie, écoute les tambours de Palenque, toujours prêt à relever le défi. Sur une bonne base de reggae, l'accordéon de la Colombie, écoute les tambours de Palenque. Faire trembler la planète, mille kills de musique latine, de quoi dépasser toutes les têtes. La salsa, le reggae, la cumbia, le cha-cha-cha. Mike et mes palais, non, personne ne stoppe ma fiesta. Personne ne me stoppe, non, personne ne m'arrête. Je reviens sur le son pour faire danser la planète. Personne ne me stoppe, non, personne ne m'arrête. Je reviens sur le son pour faire danser la planète. Elle s'arrête dans l'ancien, regarde pour poser sur le rythme. Elle s'arrête dans l'ancien, regarde pour poser sur le rythme. Sur une bonne base de reggae, l'accordéon de la Colombie, écoute
juste mélanger les condiments. Mais moi je le sais, il faut bien choisir ses ingrédients. Je toste sur la cumbia, je me pose sur le rhythm. Ma cuisine à moi je l'appelle cumbia morphine. Je tête sur le raga, je sais danser la salsa. Caliente ma musique parce qu'elle est née sous les tropiques. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Mes voisins sont d'accord quand je les shoot au couloulant. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Mes voisins sont comme si je leur mets pas du bouillet.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'était Sergent Garcia avec la pièce.
C'était la pièce Personne ne me stoppe.
Merci Marc-André.
No me puedes parar.
Effectivement, personne ne me stoppe.
Can't stop me.
Sauf si on appuie sur le bouton play. Pause.
Pause, play ou stop.
J'ai manqué ma joke.
Pause, play. Ben oui, Sergent Garcia, l'album Contre vent et marée. Généralement, le Sergent Garcia chante plus en espagnol. C'est toujours dans ce style raga, muffin, colombia, cumbia style.
Muffin.
Muffin, ouais, c'est son style. Pour le matin, des muffins, t'aimes pas ça?
Oui, oui, totalement.
Muffin ouais, chaud avec des pépites de chocolat, au bleuet, aux carottes.
Excellent,
miam. Excellent.
Ça ouvre l'appétit.
Et tu me posais la question.
Oui.
Sergent Garcia est un ex-membre de quel groupe?
Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'on compose le 1-800-CKUT, la troisième personne qui trouve la bonne réponse...
Gagne, des muffins gratuits.
Des muffins aux carottes, fait maison, par moi-même. Non, bonne question, Marc-André. J'ai comme un vague souvenir de savoir la réponse, mais non, je connais pas la réponse.
Je les ai vus au dernier Francofolie, et en fait, un comeback, si on peut dire, c'était les Ludwig von 88.
88.
Oui, les Ludwig von 88. Sergent Garcia, c'est Bruno qui est le guitariste du groupe avec une boîte à rythme, un bassiste et un chanteur.
OK.
Et des fois, il y a un DJ aussi à Star. Fait que les Ludwig qu'on aimait, comme les Berruriers Noirs, même époque.
Qui sont pas belges, hein? Ils sont français.
Ils sont français. À ce que je me rappelle, ils sont français. C'est des rigolos. C'est des comiques. Faut les voir en show. Ils sont vraiment.
Ah oui?
Ah oui, c'est ça, Sergent Garcia, dans le fond, il a une double carrière, il a une double personnalité. Il a son côté Latin lover, un peu comme
ouais,
toi.
Okay.
Puis, ben, c'est ça, il fait du rock en espagnol, de la salsa, du reggae, tout ça. Et il y a plusieurs albums, dont le premier qui est excellent et le deuxième, Sin Frontera, aussi, qui est vraiment excellent. Puis, il en a fait d'autres par la suite. Puis, celui que j'ai dans les mains, d'après moi, c'est le dernier. Puis, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas lancé un. Puis, c'est pas que c'est récent, là, mais c'est quand même le dernier qui est paru. Fait que je vous invite à écouter le Sergent Garcia. Et là, on a oublié, on était tellement excités comme d'habitude, comme à chaque matin.
On est fou.
On est fou dans notre tête. Et je danse pas dans ma tête, mais pas encore. Et comme à chaque émission, il y a des films qu'on veut parler, il y a des livres de littérature. Et là, on va aller directement dans le vif du sujet,
films. On parle de films.
Oui. T'es-tu prêt? T'en as-tu vu?
Je t'écoute, Marc-André, parce que moi, j'ai pas vu aucun film cette semaine.
T'as vu aucun film, ça va pas bien, t'es bien occupé. Le premier, c'est un film documentaire, et le deuxième, c'est une série.
C'est pas un film.
C'est pas un film, c'est une série, c'est une fiction. Mais là, si je te dis, hey, c'était dur à dire, on dirait que j'avais un dentier puis ça sifflotait dans mes dents. C'est okay. Un siffleux, c'est sifflé. Bob Ross.
Bob Ross, ben oui, je le connais, lui.
Pas Bob Rock, là.
Non, ni Bob l'éponge.
Non plus.
Non plus. Bob Ross, qui avait comme des cheveux en éponge sur la tête, mais tout le monde connaît Bob Ross.
Non, peut-être pas.
Ah, OK, excusez. Ben, il faut que j'introduise Bob Ross. Comment introduire Bob Ross? C'est un monsieur qui avait une émission communautaire de télé dans les années 1980, plus ou moins.
Ouais.
Et puis, qui faisait des toiles en direct dans son émission. Et puis, il faisait des paysages, c'était uniquement des paysages qu'il faisait.
Exact.
Et c'était un monsieur qui était extrêmement talentueux et aussi extrêmement, très charmant, dans le sens que tu commençais à écouter l'émission et c'était impossible d'arrêter parce que tu étais hypnotisé par autant son talent en art visuel que par sa voix.
Sensuave.
Très suave et très hypnotisante.
À la Barry White.
C'était vraiment, vraiment tout un personnage et il aimait bien aussi s'occuper des petits écureuils.
Oui.
Qui nourrissait au biberon.
Exact.
Donc, tu as vu un documentaire sur lui?
T'en sais plus que moi sur lui, c'est incroyable. On n'a même pas répété, mesdames et messieurs.
J'étais un fan de Bob Ross.
Ah, ben, OK. Tu n'as jamais commencé à faire de la peinture paysagiste comme Bob?
Non. Ben, j'ai essayé, mais j'ai aussi essayé de me faire pousser un afro comme lui, puis ça n'a pas fonctionné.
Non, mais le plus drôle, OK, c'est que dans le documentaire qui s'appelle, j'ai au moins nommé le documentaire, ça s'appelle Happy Accident. Betrayal and Greed, sorti en 2021, que vous pouvez voir sur une fameuse plateforme qui finit par Flix.
Oh non, pas encore Netflix.
Non.
On n'est plus capable.
On n'est plus capable. Et là, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, on apprend le côté de la vie, de la carrière de Bob Ross.
Mais Bob Ross, là, j'ai pas vu le documentaire. Pète pas ma bulle, s'il te plaît.
Tu vas vouloir
l'écouter? Dans mon esprit, Bob Ross, c'est un ange, c'est un personnage parfait.
Non, il y a des démons.
Qui pouvaient pas avoir de démons.
Il y en a, il y en a tous.
Je sais pas quoi.
Toutes les artistes ont des démons à l'intérieur.
Raconte-moi ça.
Non, mais je veux pas être un spoiler attack. Là. C'est, dans le fond, c'est la carrière, c'est sa vie. Mais le côté de la grosse business derrière l'art amateur. Oui. Il y a un côté, tu sais, Bob Ross, il y a un côté. Il y a un côté créateur, il y a un côté peintre, artiste, il y a un côté aussi un peu plus animateur, parce que c'est une émission de télévision.
Excellent animateur.
Fait que c'est ça. Puis derrière ça, il y a aussi une business, en plus de l'émission de télé, c'est qu'il y avait des produits, il y avait du matériel d'artiste, qui avait le fameux logo et le fameux Bob Ross. Je ne sais pas si Incorporated, là, mais Enterprise.
Oui.
Et c'est ce qu'on découvre aussi dans le documentaire. Dans le fond, c'est comme c'est un triste tableau de l'émission Joy of Painting.
Mais juste pour être clair, parce que cette émission-là, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus.
Exact.
Et Bob Ross est décédé aussi il y a plusieurs années.
Oui.
Est-ce que tout ce que tu me racontes là, c'est des choses qui se sont passées pendant qu'il était encore vivant?
Ben, si tu me donnes 2 secondes, naturellement, quand tu me demandes des choses très pointues...
Parce que moi, j'ai vu un reportage, il y a peut-être un an ou deux, sur un reportage actuel sur les descendants. En fait, je pense que c'est sa famille et ses enfants, sa conjointe, sa veuve et ses enfants qui, eux, s'occupent de l'héritage Bob Ross, qui montrait dans le reportage que... il y a un gros marché de contrefaçon, de fausses toiles de Bob Ross
aussi.
Qui sont en circulation, qui se font vendre sur Internet. Et, mais les véritables toiles de Bob Ross, dont les toiles qu'il a faites pendant ses émissions, sont tous entreposées à un endroit très précis qui appartient encore à la famille. Mais ils ont effectivement une compagnie qui, dans le fond, qui gère tout ce qui est l'héritage de Bob Ross. Mais c'est que c'est ça, dans le reportage, on montrait qu'il y a un gros marché de contrefaçon de faussaires, dans le fond. Là,
exact.
Qui on s'entend que des toiles de Bob Ross, c'est pas extrêmement original. C'est des paysages, c'est très beau, mais c'est des paysages très ordinaires.
Exact.
Donc c'est facile à reproduire. Puis donc il y a un gros marché là, de contrefaçon.
Ben, puis il a formé beaucoup d'étudiants, là, des étudiants dans des classes physiques en personne et aussi à cause de l'émission de télévision. Et un de ses plus grands disciples, c'était son fils Steven, qui apparaissait, qui avait un mullet, qui avait une coupe Longueuil. Et il faisait une petite. Il lisait les questions du public. Ben, pas le public qui était là, mais il recevait des lettres, hein, comme un fan club. Puis là, il disait « Comment fais-tu, Bob, pour faire telle chose? » Fait qu'il disait la question, puis Bob, il répondait, puis des fois, il faisait un sketch. Mais je vous dis juste que vous le connaissiez pas, que vous le connaissiez ou pas, toi, t'as l'air à le connaître même plus que moi. Écoutez ce documentaire-là, il est fascinant. C'est hallucinant sa vie. Tu sais, c'est un ancien militaire qui était basé en Alaska, qui s'émerveillait des paysages qu'il voyait là-bas. Il a commencé à peindre, il a commencé à délaisser sa carrière militaire qu'il n'aimait pas. Bob Ross disait souvent que c'était du criage, c'était des ordres, puis tout ça. Puis il voulait faire exactement le contraire avec son émission, avoir une voix calme, apaisante, une voix FM. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça qu'il raconte. Okay. Et il s'est inspiré aussi d'un peintre allemand qui avait eu une émission, mais qui était, quand vous allez voir le documentaire, vous allez voir, moi je ne le connaissais pas, ou vaguement, il était plus comme, pas agressif, mais c'était plus sec, c'était moins dynamique, c'était moins enjoué. Puis Bob, il a comme analysé qu'est-ce qu'il faut, tu sais, il a regardé le show, puis il a dit, c'est tout ce que je ne ferais pas. Okay. Mais c'était quand même son mentor d'une certaine façon. Et, fait que c'est ça. Puis je veux juste péter un spoiler.
Juste un, s'il te plaît.
Juste un.
Ouais.
Bob, là, ses cheveux n'étaient pas de même pour de vrai.
Qu'est-ce que tu faisais? Il n'était pas de même pour de vrai. C'était pas ses vrais cheveux?
Ses cheveux, là, sont flats comme moi pis toi.
OK.
Tu sais, dans les années 80, 90, tout ça.
Ouais.
La permanente existait.
Oui.
Pour les hommes aussi.
OK.
Fait que c'est ça.
Fait que ses cheveux frisés,
ouais,
c'était pas naturellement frisé.
Pas d'après moi.
Pas d'après toi, non mais... OK, on va aller voir le film, puis on va essayer d'élucider le mystère des cheveux à Bob Ross.
Oui, mais c'est très décevant. Là, c'est décevant, je trouve pas mes notes, mais qu'est-ce qui est encore plus décevant, c'est qu'il est décédé très jeune d'un cancer.
OK.
Et le doute qu'on a, c'est que, tu sais, lui, c'était de la peinture à l'huile.
Ouais.
La peinture à l'huile, tu mélanges avec des solvants. C'est de la peinture qui ne sèche pas. Fait que pour changer de couleur, ben, tu as vu l'émission. Il donnait tout le temps, je ne m'en rappelais pas,
mais oui.
Il donnait tout le temps des tapes sur son chevalet en métal.
Avec son pinceau.
Avec son pinceau.
Il faisait un tac, 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 tac.
Exactement.
Ouais.
Mais ça, il y avait des solvants là-dedans.
OK.
Soit de la térébenthine, soit un solvant à base d'alcool, whatever.
Pétrole, oui.
C'est pétrole, probablement.
À cause de solvants.
C'est une hypothèse, oui, mais c'est ça qui...
Ah, c'est triste.
Ouais, c'est très triste. Parce que si, tu sais, peut-être il serait encore en train de donner des émissions.
Ah non, c'est incroyable, ça, c'est vraiment triste.
Ouais.
Il est mort à cause de son art.
Exactement.
Son art l'a tué. Pourtant, qu'il n'était pas de la drogue ou de la...
Non, c'est ça. C'était pas destroy son show, là. Il faisait pas des têtes de mort, il faisait des beaux paysages gentils.
On va aller en pause, Marc-André. On va au retour de la pause. On a plein de bonnes choses à se raconter.
Oui.
Donc, restez des nôtres sur les ondes de CKUT 90,3
FM.
Cet automne se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
RIDM.
Une 24e édition plus engagée et rassembleuse que jamais.
Au programme, les 100 meilleures œuvres documentaires de l'année.
Projetées en salle du 10 au 21 novembre à Montréal.
Également disponible en ligne du 14 au 25 novembre partout au Canada.
Rendez-vous à la Cinémathèque québécoise, là où toutes les histoires se rencontrent.
Consultez la programmation au ridm.ca.
Puisque ça fait plus d'un an qu'on le mentionne, et que de toute façon, vous le savez probablement déjà, on a décidé de ne pas vous le dire. Donc, on ne vous redira pas que pour se protéger de la COVID-19, il faut se laver les... On ne répétera pas encore une fois qu'il faut porter un... Et surtout, qu'il faut garder nos... avec les autres. Vous le savez, c'est la meilleure façon de combattre le virus, même lorsqu'on est vacciné. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Bon matin sur les ondes de CKUT 90,3 FM à l'émission...
Le lendemain de la veille.
Et on continue avec Nelson et Marc-André. Et avant la pause, on discutait sur un documentaire à voir sur Bob Ross.
Oui.
Et j'aurais plein d'anecdotes à dire, mais écoutez-le, on s'en reparle. Et là, je vais vous parler d'une autre chose qui est un phénomène, on va dire, planétaire. Est-ce que tu me vois venir?
Possiblement, puis j'ai peur de qu'est-ce que tu vas raconter, mais on va y aller parce que ça a l'air qu'il faut en parler, parce que c'est d'actualité puis que tout le monde en parle.
Genre, si je te dis Old Boy.
Oui.
Parasite.
Je sais où tu t'en vas, Marc-André.
Seoul Station.
Oui.
Train to Busan.
Ben oui, je le sais.
Ben vas-y, dis-le.
Squid Game.
Exactement.
Faut en parler.
Le jeu du calmar en français.
Ben oui, Squid Game.
111 okay. millions de personnes écoutent ce phénomène-là. L'as-tu regardé?
Je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai okay. pas regardé. J'hésite. Écoute, c'est sûr que bon, c'est comme devenu incontournable, tellement c'est populaire. Même que mes enfants m'en parlent tout le temps.
Ils veulent le voir et ils te supplient.
Ils l'ont pas vu. Je vous assure, tous à la maison, mes enfants sont trop jeunes pour écouter ça, puis ils vont pas l'écouter avant un bon bout.
Mais ils vont le gosser en titi.
Mais le problème, c'est que c'est devenu tellement populaire que les amis à l'école l'ont tous vu, ben, semble-t-il, qu'il y ait des enfants qui jouent dans les cours d'école, ils reproduisent les jeux. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était des jeux déjà d'enfants classiques, là, le jeu comme 1, 2, 3 soleils.
Oui.
Où est-ce que là, faut arrêter de bouger quand la personne se retourne. Donc là, c'est des jeux qui existaient déjà bien avant Squid Game.
Exact.
Mais là, c'est devenu une version...
hyper violente.
Gore.
Exact.
Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Squid Game?
Ben, il y avait beaucoup de choses qui... Ben, moi, je l'ai vu. J'aimais ça. Le hype, il est très gros. Pour une fois, on peut presque croire le hype. Là, Public Enemy disait « Don't believe the hype », mais okay. le hype, je pense qu'il est à la hauteur. Même, je trouve qu'il est plus à la hauteur que les attentes qu'on avait quand Parasite a sorti. Okay. Le film, l'autre film coréen qui avait gagné...
Le score du meilleur film il y a 2 ans.
2 ans déjà.
Oui.
On était-tu déjà en pandémie quand ils ont gagné? Je pense pas.
Je crois que non.
Non, c'était la dernière année normale, entre guillemets. Mais c'est un film du Sud-Coréen Wang Dong-hyuk. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est regardez-le ou regardez-le pas. C'est comme Game of Thrones, c'est comme Breaking Bad, c'est un choix personnel si vous aimez la violence, si vous n'aimez pas la violence. Mais avec les Coréens et même les Japonais, il y a tout le temps une horreur, il y a tout le temps une ambiance qui est comme aseptisée dans les films généralement ouais. américains. Eux, il y a un côté que les tabous sociaux, les interdits, tout ça, ils passent par-dessus là, comme si de rien n'était. Fait que c'est ce côté-là qui m'a attiré la curiosité et que le fait que ma blonde en parlait puis qu'on voit beaucoup de TikTok, d'Instagram qui font référence au jeu. Et même à Montréal, dans le métro, il paraît que la fameuse scène que c'est quelqu'un qui t'approche en complet cravate okay. dans le métro puis qui veut jouer une partie du jeu. Là. Moi, je trouve que c'est comme un jeu de cartes là, que tu flippes par terre puis c'est une affaire comme de jeu de cartes. Je ne sais pas comment okay. il s'appelle le nom du jeu exactement. Mais dans le film, naturellement, il y a ça. Et là, ça se reproduit à travers
En vrai?
En vrai, oui.
Puis sans aucun doute, ça risque d'être le costume d'Halloween.
Exactement.
Numéro 1 dans le monde, là, carrément.
Ouais, ouais.
Considérant que Netflix est...
Pour Halloween 2021-2022, même pour 2 ans, je pense que ça va faire peut-être l'effet que V for Vendetta, la masque avait eu. Je sais pas.
Ouais.
Je dis ça comme ça, là, je lance ça comme ça, parce qu'il y a un côté masque très fort dedans. Il y a un côté, tout le monde est habillé pareil. Fait que soit t'es les gardes de sécurité qui sont habillés en rouge avec un masque, ou t'es les participants à ce jeu d'élimination pour gagner une cagnotte qui est en vert. T'es comme en Adidas ou en sweat, pour aller faire du gym. Là, pis tout ça, là, fait que okay. c'est un peu ça. Là.
Mais en gros, si t'as résumé l'histoire sans trop de détails, là, mais de quoi ça parle?
Ben moi j'irais pas. Ben non, je vais même pas aller là. Je veux pas rien dévoiler parce que c'est comme regarder un trailer. Quand tu vois un trailer d'un film, t'en sais trop déjà.
Ouais.
C'est déjà qui est le bon, qui est le méchant. C'est déjà où est-ce que ça s'en va, ou probablement où est-ce que ça s'en va. Fait que je veux pas faire ça. Moi, je veux juste dire que l'auteur, le réalisateur que j'ai nommé tout à l'heure, Monsieur Dong-hyuk, ça y a pris 10 ans avant que le scénario soit accepté, que le film soit accepté. Et lui, ce que j'ai trouvé ça intéressant d'un phénomène, on va dire sociologique ou anthropologique ou sociétal, c'est que la société n'était les refus qu'il y avait, peut-être le scénario n'était pas à point, peut-être que son pitch n'était pas bon, mais le monde n'était pas prêt à recevoir ça nécessairement, même si on était habitué à de l'ultraviolence et tout ça.
Ouais.
Mais là, avec la pandémie, tout ça, c'est comme si l'idée a mûri puis le timing était parfait.
Okay.
Parce que pour lui, en Corée, il y a une crise économique, puis il y a vraiment un écart grandissant entre les riches et les pauvres.
Okay, ouais.
Fait que c'est tout ça mis ensemble, plus la pandémie, tout ça, fait en sorte que c'est comme...
Ça devient un propos d'actualité.
D'actualité où le monde le perçoit, t'sais, il essaie de lire entre les lignes, puis peut-être qu'il n'y a pas de message, là, peut-être qu'il y en a un, mais il capte quelque chose que...
Ouais.
Fait que c'est un timing. Je pense que le film a eu le bon timing. Puis là.
Mais en fait, c'est une série.
C'est une série. Il y a 9 épisodes, je crois. Puis ça dure peut-être une heure. C'est pas trop long. Tu peux le binger. Tu peux l'écouter en rafale, peut-être en 3. Tu sais, t'en écoutes 2-3 par soir, puis ça va assez vite.
Ouais.
L'autre chose qui est super intéressante, sans rentrer dans l'histoire, c'est, comme on a dit, c'est un jeu. Vous allez voir le film. C'est que. Moi, je savais pas avant de voir le film, puis je voulais en savoir le moins possible. La série, oui, pardon. Mais à ce temps, les séries, c'est comme un film, parce qu'il y a un traitement cinématographique.
Ouais, je suis d'accord.
La musique, et ça accroche, tout est...
Ouais, ouais.
Mais juste une petite chose, c'est que y a un parallèle à faire entre un des personnages principaux et le réalisateur. Quand tu vois que ça a pris 10 ans à écrire ça, qu'il y a eu une crise économique là-bas, que le personnage, il y a de la misère financièrement, le personnage principal, ben lui aussi, il a passé à travers, on va dire, ces 7 années de vache maigre ou une espèce de calvaire.
Ouais.
Puis que, dans le fond, il raconte un peu son histoire, mais qui distorsionne, qui amplifie. C'est une satire, c'est tout ça, là.
OK.
Fait, moi, je vous dis, pour ça, pour une fois, pour le phénomène, moi, j'ai embarqué.
Mais ce que je comprends, comme j'ai pas vu la série, c'est qu'il y a un propos d'auteur. Ça reste une genre de série d'auteur qui a vraiment un point de vue, une sensibilité critique sur la société coréenne à l'heure actuelle. Sur les inégalités sociales, sur le consumérisme, peut-être aussi. Je l'ai pas vu.
Oui, ça ressemble un peu à ça. Mais ça, toute société capitaliste, dans le fond, là, c'est sûr que ça se passe là-bas en Corée, mais dans le fond, c'est une critique sur on rentrera pas là-dedans. Là, on fera pas un débat sur le capitalisme et tout ça, mais c'est ça. C'est du divertissement. Mais avec une petite conscience. Je sais pas, ça te fait réfléchir à bien des affaires.
Oui.
Aux rapports humains, aux rapports sociaux. Comme je dis, le visuel est sur la coche. Pour moi, à chaque fois qu'il y avait un nouveau jeu, c'est comme ils te surprennent.
OK.
Parce qu'ils ont des jeux, chaque jeu les amène à un autre niveau, et chaque jeu est différent, mais à chaque fois, c'est une surprise. Si t'as pas vu trop de... C'est pour ça que je voulais le voir assez rapidement, je voulais pas avoir les spoilers de...
Ouais.
Tu sais, on voit déjà 1, 2, 3 soleil.
Tout le monde en parle, puis tout le monde te spoil un peu à gauche, à droite.
Comme je suis en train de faire en ce moment pour tout
mais
le monde.
Mais non, c'est correct, on n'a pas trop parlé, puis effectivement, moi, pour quelqu'un comme moi qui a pas vu la série, qui a juste vu la bande-annonce, effectivement, je pouvais faire des parallèles avec des émissions de télé-réalité qui sont extrêmement populaires partout, puis où on fonctionne par élimination à chaque semaine. Ce week-end,
on garde
la soirée d'élimination.
Ouais.
Donc, c'est vraiment une parabole sur tout ce phénomène-là qui est vraiment planétaire, qui est répandu partout dans le monde, mais amené à un autre niveau avec toutes les couches... de critique sociale. Mais allez voir la série.
Mais pour quelqu'un qui ne l'a pas vu, t'es très bon. Mais la seule chose, je vais juste te reprendre, c'est que c'est pas télévisé. C'est un jeu, on va dire, caché, illégal. C'est underground. C'est vraiment pas...
Hunger Games, on avait vu ça aussi. Puis dans les années 80, je me souviens même d'un vieux film de Arnold Schwarzenegger qui avait... ça s'appelait The Running Man.
Ah, ben oui. C'est une chose de Stephen King, de Richard Bachman.
Oui.
C'est un jeu. C'est encore un jeu.
C'est un jeu de survie. Un jeu télévisé de survie.
Oui.
Où est-ce que là, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui ils se font comme kidnapper puis ils se font lancer dans une arène de survie. Mais à leur insu, c'est ça, ils sont comme là, ils savent pas pourquoi, puis ils se font... Mais là, j'avoue que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, je suis plus sûr que je dis la bonne affaire, mais bref, je me souviens juste que c'était filmé, c'était télédiffusé, puis c'était comme l'émission la plus populaire.
La plus populaire, écoutez.
Tout le monde pariait sur « Ah ouais, tel survivant », puis le personnage de Arnold, c'est un, il devient un concurrent de cette émission-là de survie extrême, puis qu'il réussit un peu à faire son chemin dans l'émission. Bref, c'est un concept qu'on a déjà vu, les télé-réalités, mais là, c'est amené à un autre niveau avec Squid Games.
Exact.
Marc-André, on va enchaîner parce que là, on parle beaucoup.
Comme on a une autre... d'habitude.
Vas-y, vas-y fort, chante
non,
pour
non,
nous.
Non, non.
On va continuer en musique avec une chanson qui va, on avertit les oreilles sensibles, peut-être écorcher quelques petites...
Peut-être baisser le son. On va vous dire c'est qui. Le titre, c'est « Épidémique ».
Écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3. Marc-André, Marc-André, qu'est-ce que t'as fait là? T'as mis une toune qui a vraiment là, Opelay,
j'espère qu'on n'a pas perdu. On était à 10 auditeurs, là, on est rendu à moins 10, mais j'avais pas le choix. J'ai écouté du Slayer quand j'étais jeune. J'ai un côté métal et Slayer a fêté le 35e anniversaire de l'album culte, classique. Les adjectifs que je peux dire de cet album-là, il y en a une tonne. C'est comme une tonne de briques. Ça sonne comme une tonne de briques.
Effectivement, je viens d'entendre ça, puis je me sens comme une tonne de briques.
Fait que le matin, là, soit que ça vous réveille ou ça vous met en tas, trois petits points. Mais Slayer, Reign in Blood, le règne dans le sang. On va dire que c'est le troisième album vrai de Slayer, mais c'est le plus important. Produit par Rick Rubin.
Fait que
Oui. Vas-y.
Le grand Rick Rubin.
Oui. Et... qui a fait Beastie Boys, License to Ill, qui a fait plein d'affaires, les Red Hot, Eminem, Name It, Johnny Cash. Mais Slayer avant, là, je vais me faire lancer des tomates par mes amis Metalhead, mais tu sais, je les avais en cassette, là, Hunting the Chapel, Ella Waits, sur Banzai. Ça sonnait dans un ghetto blaster comme de la boîte. Je parle pas musicalement qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'était. C'était dark, c'était cool, c'était metal, c'était heavy, là. Mais le son, la production, c'était de la boîte. Mais là, quand M. Rick Rubin est arrivé, puis qu'il a fait cet album-là avec les gars, ils ont passé de, on va dire, un petit band metal à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ça sonne comme une tonne de briques. Moi, j'écoutais ça, c'était une cassette que j'avais. Et l'album est tellement court, je pense c'est 30 minutes.
Okay.
De chaque côté, A, c'est l'album au complet. Puis B, quand ton Walkman était auto-reverse, l'autre côté repartait. Puis dans ta ride de bus, tu réécoutais tout l'album de Angel of Death jusqu'à Rain and Blood. Et là, les solos sont panés, sont en stéréo.
Okay.
Fait que quand c'est Jeff Hanneman, un des guitaristes, à gauche, c'était Jeff Hanneman, exemple. À droite, c'était Kerry King.
Okay.
C'était ça tout le long, puis tu pouvais reconnaître les solos, puis qui faisait ça. Fait que cet album-là, la tune c'était épidémique, il y a 35 ans aujourd'hui, et on a parlé de drummer récemment. On est comme obsédé par les drummers, même si moi, je jouais de la guitare, puis toi, tu criais dans un groupe. Mais avec Tommy dans un sous-sol.
On va dire que. OK, ouais. Okay. C'est pas vraiment un groupe, mais bon.
OK, on n'ira pas là, mais c'est ça. Rain and Blood a 35 ans. Et. Qu'est-ce que je veux dire de cet album qui est incontournable?
Ben, qui a été réalisé par Rick Rubin.
On l'a dit, oui.
Et que ça les a fait connaître de façon... Il y a eu un grand succès international suite à cet album-là.
Ben, ça les a aidés. Pour moi, c'est le... Je pense que les anglophones disent le landmark. C'est comme, c'est comme la base. C'est comme le pied, là, c'est le point zéro. Puis après ça, tu construis par-dessus ça. Ça, là, c'est comme dans les albums métal, c'est ça. Ah, ce que je voulais dire à cause du drummer, Dave Lombardo, drummer, qui a joué... qui joue avec Fantomas, qui joue avec Suicidal Tendencies, qu'on a eu la chance de voir. Dave Lombardo avec ST. Et d'autres groupes, avait 20 ans. Il avait 20 ans.
En 1986.
Ah, exactement.
Il a enregistré l'album.
Exactement.
Rain and Blood.
Puis il n'y a pas, tu sais, double pedal, des toms, des cymbales, il y en avait partout. Il n'y a pas un temps mort sur l'album. C'est essoufflant.
Bref, il avait 20 ans, puis il était en forme, le petit jeune.
Il est encore en forme. Il est incroyable. Tu sais, je l'ai vu live avec Fantomas. Ce drummer-là, il se le dit. Il dit, ah, il y a des jeunes, là, ils vont me rattraper, même s'ils ont écouté du Slayer. Puis il l'a dit. Il dit, quand tu as 40, 50 ans, tes pulsations cardiaques sont plus lentes.
OK, ouais.
Puis lui, pour lui, ça a rapport avec ce que tu drums, ce que tu es capable d'endurer physiquement ou de drummer ou de comme performance. Fait que lui, se challenge, excusez l'expression, il se
met au défi.
Il se met au défi de drummer comme s'il avait 18 ans ou 20 ans.
Encore
puis d'aller encore plus vite. Puis ça, c'est pour ça qu'il y a des groupes expérimentaux. Quand tu écoutes Fantomas, là, c'est de la musique actuelle, c'est du noise, là, mais le beat par minute, là. Tu sais, au Québec, avec Cryptopsy, on avait Flou Mounier, qui est un duo drum. Tu sais, on en a plein. Puis à Star, il y a des... Je regardais ça dernièrement, un autre drummer espagnol. C'est capoté, là, la vitesse puis la dextérité qu'ils ont. Mais moi, je pense à mes études de pas mal de ce gars-là. Tu sais,
Dave Lombardo,
yeah,
de Slayer, de l'album Raining Blood, qui a fêté son 35e anniversaire. Ce mois-ci.
Ouais.
Marc-André, on va aussi parler de livres.
Ouais, ça me tente plus. Je suis dans un buzz de musique.
Ben, OK, vas-y, je te laisse aller.
Ouais.
De quoi tu veux parler?
Il y a un autre album qui a fêté 35 ans.
Ben, voyons donc.
Il y en a plein. Il y en a plein. Cette année, c'est une grosse année. Là, puis, tu sais.
Tu veux dire que 1986 était une grosse année?
Une grosse année pour le metal, le trash, le crossover. Et ça, je les ai mis toutes les deux, là, je suis fier de le dire, sur mon Instagram, parce que c'est deux albums que j'avais écoutés énormément. Et un groupe que j'aimais particulièrement de New York, qui avait un gars qui s'appelait Dan Laker, qui jouait dans un groupe que tu as déjà entendu, S.O.D.
Stormtroopers of Death.
Yes, bravo, tu gagnes les muffins aux carottes qu'on s'était promis.
J'ai un T-shirt avec ça aussi.
Un T-shirt.
C.K.U.T.
C.K.U.T. Et le groupe en question, c'est Nuclear Assault.
Nuclear Assault. Qui ont, avec l'album Game Over. Game Over. Donc, c'est 35 ans aujourd'hui, qui est un autre groupe de trash metal. C'est ça le,
ouais, ouais.
la catégorie hein, qu'on exact. Pourrait, si on veut mettre un label sur le style. Mais, OK, assez de métal pour aujourd'hui, ouf!
Non.
Je t'ai soufflé, là, vraiment.
On n'en a jamais assez du métal.
J'ai les oreilles qui saignent, vraiment.
Vraiment.
Mais là, tu nous présentes une belle petite BD, une trouvaille, Marc-André, de...
Alberto Mont.
Alberto Mont.
Tu connais ça, Alberto Mont?
Du tout.
Moi non plus.
Je connais les fruits d'El Monte.
Oui. Mais, ben, OK, tu te rapproches. Il est né en 1972 à Quito, en Équateur.
Mm-hmm.
Avec un nom Mont, j'aurais pas gagé ma paye là-dessus. Puis il a étudié en arts plastiques à l'Université de Quito. Après, il est allé s'installer au Chili. Il a fait une petite bande dessinée que j'ai entre les mains qui s'appelle Anxiété chérie. C'est une traduction, une adaptation. Et c'est des petites vignettes. C'est un petit format. C'est en couleur. C'est très cartoon et c'est différentes personnes, des hommes, des femmes, de tous les milieux qui ont des anxiétés et qui ont tous en commun une petite bébête, une petite boule rouge avec des pics dessus, avec ouais. des studs, et qui est gossante, la bébête, c'est l'anxiété.
Qui représente l'anxiété de chaque personnage dans chaque vignette.
Exactement.
Et c'est vraiment adorable. Je l'ai feuilleté rapidement avant de commencer l'émission. J'ai pas lu le livre. Puis c'est vraiment, c'est très charmant.
Oui, il y en a des très croustillantes. C'est pas toujours drôle, c'est des observations. Mais moi, je vous le conseille. Juste le propos, il y a une satire, il y a un petit côté, ça n'a même pas rapport, mais tu sais, Mafalda, des fois, elle avait comme des intuitions, des critiques sociales, même si c'était une petite fille. Bien, on dirait que le ton, exactement, l'anxiété, la petite bébête là, rouge qui prend forme de cette émotion-là a des comment je pourrais dire,
une personnalité ou...
Ouais, une personnalité, puis elle se moque vraiment de son...
Donc là, j'y vais de mémoire parce que je l'ai feuilleté vite fait.
Ouais.
Il y a une vignette qui m'a fait rire où est-ce que... On voit la petite boule d'anxiété qui est un personnage dans l'histoire, là,
oui.
dans la bande dessinée, où est-ce qu'il est tout petit à côté d'une dame qui est en train de préparer sa valise. Puis l'anxiété lui demande « Hey, pourquoi je suis tout petit maintenant? » Puis la dame répond « Ben, je me sens bien, je m'en vais en vacances pendant une semaine. » Et sur la case suivante, la petite boule devient extrêmement grosse, puis qui lui pose la question « Ouais, mais est-ce que ton passeport est encore valide? T'es certaine qu'il n'est pas expiré? »
Donc
son visage est complètement différent. Oups, j'ai quasiment brisé la console. Donc, l'anxiété qui prend le dessus sur ses émotions, c'est vraiment, vraiment drôle. C'est très rigolo. Puis je pense que ça peut être... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent apprécier cette bande dessinée-là.
C'était très rigolo qu'est-ce qui vient de se passer en studio, c'est que Nelson avait la petite console entre les mains, la console des écouteurs, et il continue à parler. Fait qu'il
est
multitask.
Tout est sous contrôle.
T'es multitask. Mais moi, je veux en lire une que j'ai beaucoup appréciée. L'anxiété, elle demande à la personne, elle dit, tu sais ce que tu vas gagner avec ce confinement? Non. Au moins 6 kilos. Mais c'est de la manière que c'est dessiné. Le raconter, c'est moins drôle, mais allez-vous le
procurer. C'est vraiment cute, c'est vraiment charmant, c'est vraiment adorable. La petite boule rouge qui est un personnage qui représente l'anxiété de chaque personnage humain qui est dessiné dans l'histoire. Donc, c'est Alberto Mont.
Alberto Mont, Anxiété chérie, tout simplement.
Donc, avant de terminer, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, il reste environ une minute, est-ce qu'on y va en musique ou tu nous racontes une autre anecdote de vie, Marc-André?
Oh là là, tu m'en demandes. L'émission va tellement vite des fois qu'on... Ben, je dis ça, c'est le temps de parler d'un autre livre ou non?
Il nous reste moins d'une minute.
Ah ben, on va y aller en musique, je crois.
Let's go. Okay. On y va en musique avec Sonny Duval. Sonny Duval, qui est un autre artiste local, qui était membre des Breastfeeders. Et on y va en musique. On se revoit à la semaine prochaine. Marc-André.
Il y a une grande rousse dans mon lit.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Tout nu, elle fume dans mon lit.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Des bagues, des allumettes, des notes sur le tapis.
you have flu-like or COVID-19-like symptoms, such as fever, cough, loss of taste or smell, or if you have been in contact with someone infected with the virus, it's essential to get tested and to follow isolation instructions, even if you're vaccinated. Screening remains one of the best ways to limit outbreaks. To find out more, visit quebec.ca/test-covid-19. A message from le gouvernement du Québec.
Cet automne se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
RIDM.
Une 24e édition plus engagée et rassembleuse que jamais.
Au programme, les 100 meilleures œuvres documentaires de l'année.
Projetées en salle du 10 au 21 novembre à Montréal.
Également disponible en ligne du 14 au 25 novembre partout au Canada.
Rendez-vous à la Cinémathèque québécoise, là où toutes les histoires se rencontrent.
Consultez la programmation au ridm.ca.
Join CKUT for a buffet of McGill.